Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, édition du mardi 3 octobre 2023. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le Niger est en deuil mardi après la mort de 29 soldats dans une attaque djihadiste en RDC. Le colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine, a été condamné à la peine de mort et renvoyé de l'armée après le carnage de Goma. Le Parlement arménien ratifie l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale. Moscou condamne cette décision. Dans les dossiers du jour, nous aurons comme invité le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre en RDC. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Niger a entamé 3 jours de deuil national après la mort de 29 soldats dans une attaque djihadiste présumée, la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir de l'armée en juillet. L'attaque a eu lieu au nord-ouest de Tabatol, près de la frontière avec le Mali. Alexandrine Ollognon.
L'attaque a été menée par des insurgés armés près de la frontière avec le Mali, selon un communiqué du ministère de la Défense. D'après le texte, les soldats revenaient d'opérations contre des groupes armés lorsqu'ils ont été pris pour cible par plus de 100 assaillants à bord de véhicules et de motos utilisant des engins explosifs et des kamikazes. Plusieurs dizaines d'assaillants ont été tués et des véhicules ont été détruits. Cette attaque est l'une des plus meurtrières depuis que des militaires ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en juillet. Les militaires au pouvoir ont indiqué hier qu'ils envisageaient l'offre de l'Algérie voisine de servir de médiateur dans les pourparlers visant à rétablir un régime civil.
Dans le nord du Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a imposé un blocus de plusieurs jours sur la ville de Tombouctou, maintenant menace de faire un blocus sur Gao, la grande ville du nord. Abdoul Idrissa Nasser.
Effectivement, la semaine dernière, le Génim a envoyé une lettre, a publié une lettre qui stipule qu'il arrête carrément l'approvisionnement de la ville de Gao en carburant. Donc, dans la lettre, ils expriment en tout cas cela par le fait qu'il y a des exactions de l'armée malienne et leurs partenaires sur les communautés. Donc, dans la lettre, ils expriment également que le dernier point d'approvisionnement s'arrête à Al-Moustrat. Et que, en tout cas, toute personne qui franchira cette zone en destination de Gao s'exposera en tout cas à la sanction prévue par, en tout cas, leur loi islamique. Les populations sont carrément stupéfaites parce que quand on essaie de voir Gao, seule l'Algérie approvisionne aujourd'hui la ville de Gao. Parce que de l'autre côté, sur le fleuve, il y a un blocus total. Les finances n'inquiètent plus comme tout pour Gao. La route Douanza-Gao, l'axe est carrément fermé. Également, il y a un blocus de ce côté par les djihadistes. De l'autre côté, vers le Niger, pour Gao également, c'est un blocus parce que à partir des ports du Bénin et du Togo, l'embargo empêche aux véhicules de quitter pour venir via le Niger. Donc vraiment, les populations de Gao sont carrément dépassées par cette décision, exaspérées. On sent déjà des coups sur le marché. Donc, les populations de Gao sont angoissées et n'apprécient pas du tout, en tout cas, cette décision du Génim.
Au moins 40 passagers sont portés disparus et présumés morts après le naufrage d'un bateau lundi sur le fleuve Niger dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré mardi un responsable local. Le bateau qui transportait 50 personnes a chaviré à cause de forts courants et 10 passagers ont pu être secourus, a déclaré le responsable du district de Yori, Bala Mohamed, estimant qu'après une journée de recherche, les disparus sont probablement morts. Toujours au Nigeria, au moins 18 personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées lors d'une explosion dans une raffinerie illégale de pétrole dans le sud-est du pays. C'est ce qu'a indiqué mardi un responsable sécuritaire. L'explosion est survenue dimanche. On est dans l'état de Rivers, de région du Delta du Niger. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée est entré dans sa deuxième année mardi à Conakry, où l'ex-président Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux répondent de leurs actes. Ce procès a repris avec la suite de l'audition des témoins. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées, et au moins 109 femmes ont été violées dans un stade de Conakry, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU. Dans l'est de la RDC, après un mois de procès, la Cour militaire du Nord Kivu a rendu son verdict hier tard la nuit à Goma dans l'affaire du carnage des adeptes d'une secte appelée Wazalendo. Principal accusé, le colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine, a été condamné à la peine de mort et renvoyé de l'armée. Davantage avec Zanem Neti Zaidi.
L'audience avait été renvoyée en prosecution à ces jours.
Après un procès houleux, le verdict est finalement tombé. Tard dans la nuit du 2 octobre, la Cour militaire du Nord Kivu a condamné à mort le colonel Mike Mikombe et prononcé son renvoi de l'armée congolaise. Trois soldats de deuxième classe ont été condamnés à 10 ans de prison pour meurtre. Deux autres soldats ont été acquittés.
Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à l'usage des forces armées.
Bien que ces verdicts semblent sévères, ils ne racontent pas l'approbation des proches des victimes du carnage du 30 août 2023. La société civile urbaine de Goma s'est dit à moitié satisfaite. Depuis les événements du 30 août, les familles des victimes se disent abandonnées et sans assistance. Plus de 50 personnes ont perdu la vie dans le carnage de Goma et 140 adeptes de l'église Wezoaneno, Wazalendo, ont été arrêtés et emprisonnés. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique. Goma.
Après des années de pression internationale, le Soudan du Sud a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort du journaliste américano-britannique Christopher Allen, tué en 2017 alors qu'il couvrait la sanglante guerre civile qui faisait rage dans le pays. Christopher Allen a reçu une balle dans la tête lors de combats entre l'armée sud-soudanaise et des forces rebelles qu'il accompagnait dans la ville de Kaya, à l'extrême sud du pays. Le gouvernement en place à Juba avait démenti les accusations selon lesquelles le journaliste avait été délibérément pris pour cible par l'armée. En Éthiopie, des experts de l'ONU affirment qu'il existe un énorme risque que les atrocités contre les droits humains continuent depuis la paix conclue entre les rebelles tigréens et le gouvernement fédéral. La commission a confirmé la présence de forces érythréennes en Éthiopie et de continuelles atrocités contre les civils.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a rassuré mardi les alliés des États-Unis sur la pérennité du soutien américain à l'Ukraine qui dépend de l'issue de discussions budgétaires pour le moins chaotiques. Le président américain a organisé une conférence téléphonique pour coordonner la suite de l'aide à l'Ukraine, a fait savoir la Maison-Blanche dans un communiqué. Hunter Biden, fils du président américain, a plaidé non coupable de détention illégale d'armes devant un tribunal fédéral du Delaware. Il est accusé d'avoir menti en remplissant des formulaires pour l'acquisition d'une arme à feu en 2018, dans lesquels il niait sa dépendance à la drogue qu'il a reconnue par la suite. L'Arménie a ratifié aujourd'hui l'adhésion à la Cour pénale internationale, provoquant la colère de la Russie, un nouveau différend entre deux alliés traditionnels. Jacques Aristide.
Moscou voit cette adhésion d'un très mauvais œil. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine pour la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a condamné une décision erronée de la part de l'Arménie, disant douter que cela soit correct du point de vue des relations bilatérales. Pour lui, l'Arménie n'a rien de mieux que l'alliance avec la Russie, tout en qualifiant d'illégal le mandat d'arrêt émis par la CPI contre Vladimir Poutine. Mais l'Arménie espère que son adhésion lui offrira une protection supplémentaire contre son puissant voisin azerbaïdjanais, qui vient de remporter une victoire militaire éclair, mettant fin au séparatisme des Arméniens du Haut-Karabakh. Erevan, qui s'inquiète désormais pour la sécurité de son territoire, accuse Moscou de l'avoir abandonné face à un adversaire bien plus riche et mieux armé, ce que nie le Kremlin. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française en visite à Erevan aujourd'hui, a salué cette ratification par l'Arménie de son adhésion à la CPI.
Plus de 1000 personnes ont été arrêtées mardi dans le nord-est de l'Inde au cours de la deuxième campagne gouvernementale de lutte contre les mariages précoces. L'État d'Assam avait déjà arrêté 4000 personnes lors d'une précédente campagne en février, y compris des parents et des officiers d'état civil qui ont enregistré les mariages de mineurs. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont atteint 15,5 milliards de dollars durant les 9 premiers mois de 2023, enregistrant ainsi une augmentation de 43,5% par rapport à la même période de 2022. C'est du moins ce que rapporte le média russe RBK, qui s'appuie sur les données du ministère russe du développement économique. Au Cameroun, les prix des transports ont augmenté de 16,8% en un an, d'août 2022 à août 2023. Selon le site ecomatin.net, cette augmentation pourrait être justifiée par deux causes principales, notamment la hausse des tarifs du taxi et celle des prix du carburant par le gouvernement. Une recommandation faite par le Fonds monétaire international indique Ecomatin. Le constructeur automobile américain Ford, touché comme ses concurrents General Motors et Stellantis depuis mi-septembre par une grève, a annoncé lundi le renvoi temporaire de plus de 300 employés supplémentaires. Il s'ajoute aux 600 personnes déjà renvoyées temporairement, faute d'activité par Ford depuis le 15 septembre. C'était la Minute Éco avec John Linden pour VO Afrique.
Passons maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Le Nigeria rappelle Alex Iwobi et Terry Moffi pour ses prochains matchs amicaux.
Oui, le Nigeria a rappelé le milieu de terrain de Fulham Alex Iwobi et l'attaquant de Nice Terry Moffi pour les matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite et le Mozambique prévus au Portugal. Les défenseurs Kenef Umerue et Brian Osai Samuel qui évoluent en Turquie font aussi leur retour en sélection pour les matchs des 13 et 16 octobre à Portimao. Le milieu de terrain Fissao Dele Bashirou, qui joue en Turquie avec Antalyaspor, a été appelé pour la première fois par le sélectionneur José Pesero. Ces deux matchs ont été organisés pour permettre aux Super Eagles de s'entraîner avant le début de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 en novembre. Les triples champions d'Afrique accueilleront le Lesotho à Ouyo le 17 novembre, avant de se rendre au Zimbabwe 4 jours plus tard.
Match de la deuxième journée en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Carlo Ancelotti du Real Madrid retrouve son ancien club du Napoli pour le choc de ce mardi. L'Union Berlin et Braga vont essayer de marquer leur premier point après leur défaite d'entrée. Après avoir essuyé 3 défaites en 4 matchs, Manchester United, 10e de Première Ligue, a l'occasion de relancer sa saison à Old Trafford contre les Turcs de Galatasaray. Le Bayern Munich, fort de l'intégration réussie de Harry Kane, qui a déjà empilé 9 buts en 7 matchs, se déplace à Copenhague. Face au FC Lens, Arsenal espère confirmer son retour en Ligue des Champions après sa victoire lors de la première journée 4-0 contre le PSV Eindhoven, qui reçoit le FC Séville.
Basketball, plusieurs superstars américaines de la NBA candidates pour une sélection aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Les LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, les déclarations d'intention en direction des Team USA se sont succédées fédérées par le King LeBron James. J'ai discuté de cette opportunité autour de moi et si tout se passe comme prévu, je vais en être, c'est la seule chose que je n'ai jamais faite, assure le meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry, quadruple champion NBA. Je vais jouer aux Jeux Olympiques l'année prochaine, lance Kevin Durant. Ces déclarations font naître les comparaisons avec la Dream Team des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, menée par Michael Jordan et Magic Johnson. Les États-Unis restent sur une campagne ratée lors de la dernière Coupe du Monde disputée en Asie entre août et septembre et achevée à une triste quatrième place sans ses stars. Le mystère demeure par contre quant aux intentions de Joel Embiid, le MVP de la saison dernière. La vedette des Sixers aux trois passeports Cameroun-France-États-Unis a répété hier sa volonté de disputer les JO et promis de choisir entre ces trois pays dans les prochains jours.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, a déposé sa candidature à la présidentielle du 20 décembre. Sur les marches de la CENI à Kinshasa, il a déclaré « Notre pays va très mal, le peuple congolais vit dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Indignez-vous, résistez et si votre vote vous est volé, vous avez le droit de faire la révolution démocratique », a-t-il lancé à l'adresse des Congolais. Dans un entretien exclusif avec Eddy Isango de la VOA, le docteur Denis Mukwege donne les raisons de sa candidature.
La première motivation, c'est que depuis plusieurs années, les membres des sociétés congolaises ont toujours demandé si je pourrais porter ma candidature à la présidence de la République. Et aujourd'hui, j'ai répondu oui à l'appel de la société congolaise. Notre population vit dans une humiliation inacceptable. Et comme Congolais, quel est le bonheur que je peux avoir si je dois avoir ces honneurs et des tapis rouges quand mon peuple est humilié? Comme un citoyen révolté, indigné, quoi qu'il est temps de pouvoir s'exprimer.
En votre annonce faisant état du processus électoral qui est déjà vicié, mais vous y allez quand même.
Avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, lorsque les textes réglementaires, y compris notre loi fondamentale, ces textes ne sont pas respectés. Lorsque nous sommes dans une situation où les droits humains ne sont pas respectés, lorsque nos ressources naturelles sont pillées, je crois que n'est pas allé aux élections, ça veut dire tout simplement qu'on laisse la voie libre à ce que ces systèmes d'oppression et d'esclavage puissent continuer. On sait comment la nomination des acteurs à la CENI a été faite. Elle n'était pas consensuelle. Nous savons très bien comment l'enrôlement a été fait. Nous savons également comment la loi électorale a été votée. Et il y a toute une série de mesures qui ont été prises qui ont montré que le pouvoir a préparé la fraude. Malgré ça, nous y allons, puisque nous croyons que notre peuple n'est pas naïf et que notre peuple saura non seulement aller voter massivement, et ils ne vont pas aller voter pour leurs oppresseurs, ils vont voter les gens qui sont pour le changement, les gens qui sont pour la rupture. Et aujourd'hui, nous appelons ces peuples de ne pas seulement aller voter, mais aussi défendre son vote, être présent dans le bureau de vote, s'assurer que, en fait, la vérité des urnes sera cette fois-ci respectée.
Tout ce que vous faites en matière de médecine, mais là, c'est quand même le monde politique, tous les coups sont permis.
Et ma grande victoire sur moi-même, c'est renoncer à mon confort de médecin, de professeur, de chercheur, mon confort tout simplement, de quelqu'un qui, jusqu'à là, suivait passivement la souffrance de sa population. Et aujourd'hui, je crois que j'ai accepté de pouvoir renoncer à ce confort et de pouvoir tout simplement me battre avec mon peuple pour regagner, restaurer la dignité du peuple congolais. Et donc, quel que soit le coût, je crois qu'à partir du moment où j'ai accepté de renoncer à ce confort, eh ben, nous allons nous battre et nous savons que le peuple finit toujours par gagner.
Le docteur Denis Mukwege, candidat à la présidentielle de la RDC. Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM. Le 7 octobre prochain sera célébrée la Journée mondiale du coton, une occasion d'explorer les opportunités d'accès au marché pour le coton et les produits liés, promouvoir des politiques commerciales durables et de permettre aux pays en développement de profiter davantage de chaque étape de la chaîne de valeur du coton. Pour évoquer l'importance et les défis de cette filière pour l'Afrique, Mamadou Oumfa s'est entretenu avec Oumarou Balarabé, économiste, spécialiste du coton et consultant international.
Alors il y a deux réponses à cette question. Il y a les revenus monétaires, qu'est-ce que le coton apporte? Si je prends juste l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on est à peu près à 3 millions de tonnes de coton produit qui va être égrené, c'est-à-dire on va avoir à peu près 1 200 000 tonnes de fibres qui seront malheureusement exportées et 1 million, on va dire 500 000 tonnes de graines de coton qui vont servir à l'industrie locale, la fabrication de l'huilerie, des aliments, du bétail et pas mal. Donc en gros, le coton rapporte de l'argent aux États sous forme de fiscalité, rapporte de l'argent aux acteurs, aux industries et aux autres opérateurs économiques, les transporteurs, les transitaires et un petit peu aussi à la fin aux agriculteurs. Il faut bien savoir que le coton, géographiquement dans un pays, il pousse plus au nord. Donc quand on a des pays africains qui ont un sud équatorial et un nord sahélien, ça fait un petit peu le lien entre le nord et le sud parce que le nord fait le coton, le transporte vers le sud pour l'exporter et ça fait un petit peu de la cohésion au niveau des pays et ça construit l'économie, ça construit surtout l'agriculture du nord parce que ça, il ne faut pas l'oublier, le coton est plus une culture structurante de l'agriculture dans les pays africains. Tout comme il a été il y a 50 ans ou 100 ans, une culture, un produit structurant pour l'industrie textile dans les pays occidentaux et aujourd'hui en Asie.
Comment se fixer les prix du coton et comment est-ce qu'on peut aider les producteurs africains à gagner davantage?
Alors le coton est fixé sur ce qu'on va appeler le marché mondial, c'est-à-dire c'est toute l'offre d'une année. En ce moment, on connaît les stocks de coton qu'il y a pour la campagne écoulée et on connaît la demande en fibre de coton. Et c'est cette demande, plus l'offre qu'il y a sur le marché qui permet de donner un prix d'équilibre du coton, qui va être le prix de référence à partir duquel les filateurs vont acheter et les producteurs vont vendre. Donc vous comprenez bien que pour influencer ce marché, il faut avoir un niveau de production conséquent. C'est ce que la Chine fait en faisant des stocks, c'est ce que les États-Unis font en produisant encore plus, et l'Inde aussi. Et donc l'Afrique, c'est 10%. Donc en fait, si l'Afrique veut influencer ce prix, l'Afrique puisse augmenter, accroître son rendement, accroître sa part dans la production globale, c'est-à-dire sa production. Et en ce moment, elle va pouvoir décider de comment elle reverse la partie de prix qu'elle arrive à reprendre vers ses agriculteurs. Et là, ça va être le boom pour la production cotonnière.
Alors, vous parlez d'augmenter la production pour pouvoir influencer les prix. Cette augmentation de la production passe, je l'imagine bien, par l'industrialisation du secteur. Comment réussit ce pari?
Je crois que la culture politique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est focalisée sur la production du coton grain comme élément structurant de l'agriculture locale. C'était une chose qui était nécessaire il y a 50 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce paradigme parce qu'il y a des pays qui, comme l'Asie, qui n'ont jamais produit du coton mais qui sont des grosses places industrielles du coton. Il faut que nous-mêmes on investisse et qu'on puisse sortir de là, non pas en vendant de la fibre mais en industrialisant, en transformant la fibre et en ayant plus de parts de valeur ajoutée sur le produit final qui finalement est le vêtement, ce n'est pas la fibre.
Oumarou Balarabé, économiste, spécialiste du coton et consultant international.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
Le président William Ruto se félicite de l'approbation par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une mission menée par le Kenya et visant à apporter la stabilité en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs. C'est notre obligation morale fondamentale d'aider Haïti, a déclaré le président kényan quelques heures après le vote. Certains Kenyans estiment que c'est une bonne idée, mais d'autres expriment des inquiétudes. Davantage avec Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi. Récit Yakuba Ouedraogo.
Les Kenyans sont divisés sur la question de l'envoi d'un millier de policiers kenyans
pour aider à réprimer la violence des gangs en Haïti.
Much stronger than us.
Il y a des pays beaucoup plus forts qui auraient pu intervenir en premier. Ces éléments criminels en Haïti, tout d'abord, je ne pense pas qu'ils aient besoin de la police. Ils ont besoin des soldats.
Je pense que la police kényane est une force dont nous disposons. Nous avons confiance en elle. Il n'y a aucune raison de douter de ses capacités.
Le président William Ruto parle d'une mission cruciale pour son pays.
In our struggle, we always had friends.
Dans notre lutte, nous avons toujours eu des amis. Pas une multitude énorme d'alliés puissants, mais néanmoins de vrais amis, loyaux et déterminés.
The people of Haiti, our dear friends,
le peuple haïtien, nos chers amis, est toujours dans le besoin. Nous avons l'obligation morale fondamentale d'être son ami en nous tenant à ses côtés.
By standing with them.
Lors d'une visite au Kenya, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a fait l'éloge de ce plan.
Nous avons l'intention de travailler avec le Congrès des États-Unis pour fournir jusqu'à 100 millions de dollars de soutien et nous exhortons les autres membres de la communauté internationale à suivre l'excellent exemple du Kenya.
D'autres comme l'ancien secrétaire à la Défense du Kenya, Eugene Wamalwa, ne sont pas d'accord.
First of all, I mean, what interest would we have to be in Haiti?
Tout d'abord, quel intérêt aurions-nous à nous rendre en Haïti, un pays du tiers-monde situé à plus de 12 000 km de là? Beaucoup de nos officiers ne parlent même pas le français ou le créole et ne peuvent même pas communiquer avec les Haïtiens. Ce serait un problème, même en termes de formation et de préparation, pour s'engager dans une situation de sécurité aussi complexe où il y a une guerre urbaine avec des armes.
C'est hier que le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à l'envoi en Haïti de cette force multinationale, une mission réclamée depuis un an par le gouvernement du premier ministre haïtien Ariel Henry et soutenue fortement par Washington.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Un législateur républicain d'extrême droite de la Floride, Matt Gaetz, a lancé lundi une tentative pour évincer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, de son poste. La résolution de Gaetz, qui déclare vacante la présidence de cette chambre, doit être adoptée à la majorité, mais ne sera pas votée dans l'immédiat. Elle ravive une bataille interne au parti républicain entre les conservateurs traditionnels et les partisans enflammé de l'ex-président Donald Trump. Pour comprendre les enjeux de la résolution, Nani Talani a joint le professeur Mohamed Bodj, qui enseigne l'histoire à Manhattan College à New York.
De trahison de l'aile extrémiste de droite du Parti républicain qui voulait tenir en étage donc le budget et essayer d'y faire entrer un peu les priorités comme la lutte contre l'immigration, ne pas donner de l'aide à l'Ukraine, etc. Donc c'est un peu interne à ce niveau-là et cette frange extrémiste d'une demi-douzaine jusqu'à une douzaine de représentants républicains se sont révoltés, mais ils sont révoltés par la parole et c'est Marquez qui est allé au fond, tu vois, en ouvrant le fond et en essayant de, d'une part, peut-être qu'il cherche vraiment à faire partir McCarthy, ou d'autre part, c'est simplement un levier pour mieux négocier.
Est-ce que vous pensez que cette résolution a des chances d'aboutir?
Moi, elle a des chances d'aboutir parce qu'il faudrait simplement que quatre parmi les membres du Parti républicain votent contre McCarthy. Et si l'ensemble des voix des démocrates votent contre McCarthy, McCarthy sera destitué. Donc techniquement, c'est possible. Mais dans la logique de la politique américaine, ça, c'est un peu difficile d'envisager ce scénario parce qu'on sait que quand même il y a des amitiés solides, et il y a des relations solides, il y a des alliances solides entre membres de la Chambre des représentants et ce serait difficile qu'il n'y ait que quatre personnes qui finalement haïssent McCarthy autant pour ne pas le soutenir.
Qu'est-ce qui a rendu possible cette résolution?
Traditionnellement, pour élire le leader de la Chambre des représentants, il fallait un vote, donc où il y avait un nombre substantiel de je ne me souviens plus du quota, mais je crois que c'était dans les deux tiers ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui s'est passé lors des dernières, après les dernières élections, les membres de l'aile conservatrice ont forcé McCarthy à changer les règles de l'élection du speaker de la Chambre des représentants en faisant de cette élection une majorité simple. Donc, ça donne le pouvoir d'arriver sur le pouvoir.
Mohamed Bodjo, professeur d'histoire à Manhattan College à New York. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui Véro Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnon. Rendez-vous sur notre site internet véroafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.